Radio Prague, les informations.
Le régime sans visa sur la table au sommet Union européenne-États-Unis. Prague lance un appel d'offres unique pour éliminer les déchets écologiques. Et la Chambre des députés adopte la loi sur le conflit d'intérêts malgré le veto présidentiel. Au sommet Union européenne-États-Unis qui se déroule en Slovénie, le président américain George Bush s'est voulu rassurant quant à la suppression des visas pour de nombreux pays, dont la République tchèque. Il n'a pas dévoilé quel pays serait concerné et quand l'obligation de visa tombera, mais il a précisé que cela se ferait encore dans l'année. Rappelons que les négociations sur la question des visas se déroulent à la fois de manière bilatérale entre chaque pays et Washington, mais également entre l'Union européenne et les États-Unis. Le gouvernement tchèque a décidé de lancer un appel d'offres unique pour trouver un fournisseur général chargé de l'élimination de l'ensemble des dégâts écologiques hérités du passé. Le montant des dégâts liés à la pollution datant en général de l'époque de l'ancien régime communiste disparu en 1989, est évalué à 4,7 milliards d'euros. Au cours des 16 dernières années, seulement 26% du total de ces anciens dégâts ont été éliminés. La Chambre des députés tchèques a adopté un amendement à la loi sur le conflit d'intérêts en dépit du veto émis par le président Václav Klaus. Celui-ci, tout comme le Sénat auparavant, s'était opposé à cet amendement, notamment parce qu'il exigeait aussi des directeurs d'écoles primaires et secondaires de déclarer leur patrimoine. La Chambre basse du Parlement est allée contre l'opposition du président et du Sénat, mais le ministre de l'Éducation, Andrei Lishka, a promis de proposer un amendement qui exonérerait les directeurs de cette obligation. D'après l'ambassadeur de la République tchèque en France, Pavel Fischer, l'ambassade serait à la recherche d'un endroit à Paris où serait installée une statue de Jan Palach, l'étudiant tchèque qui s'était immolé en janvier 1969 suite à l'occupation de son pays par les troupes soviétiques. Cette statue monumentale existe déjà, elle a été réalisée dès 1969 par un artiste hongrois vivant en France, András Beck. Pavel Fischer a précisé que le choix d'un lieu n'était pas une tâche facile, d'autant que la statue mesure 3,5 mètres de haut. Et toujours à ce sujet, l'occupation de 1968 aurait fait plus de victimes que supposé, d'après les historiens de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. De l'invasion le 21 août 1968 jusqu'à la fin de l'année, 108 personnes seraient décédées suite à des altercations entre civils et soldats soviétiques ou lors d'accidents de la route, soit 14 personnes de plus que ce que l'on estimait jusqu'alors. Après la bière Klachter, lancée sur le marché chinois en 2006, c'est au tour de la célèbre marque Budvar de débarquer en Chine. Vendredi, deux containers de la bière de Tchèskoïe Boudiovitsé prendront la direction du pays. Cette année, 700 à 800 hectolitres de bière doivent y être livrés. La bière sera vendue sous le nom de Boudiovitsky Budvar. La brasserie a un contrat avec un importateur de la ville de Shanghai. Mercredi, jour de fête des Bruneaux, selon le calendrier local, on attend une amorce de la baisse des températures prévue pour la fin de la semaine. Avec une moyenne de 24 degrés sur le territoire, le ciel sera variable avec de possibles averses. Le journal de Radio Prague vous a été présenté par Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et à vous chers auditeurs d'être une nouvelle fois fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire aujourd'hui tout d'abord, l'évacuation par la police militaire des militants contre le radar américain qui campait depuis 6 semaines sur le camp militaire de Brody, là où devrait être installé le radar. Il sera ensuite question du nouveau système de dotation à la culture de la mairie de Prague, un système très controversé que le maire de la ville vient de supprimer sous la pression du monde culturel. Et puis la seconde partie de l'émission sera consacrée à la 9e édition de la Foire des associations à but non lucratif et à un retour sur le Festival des écrivains qui s'est tenu à Prague la semaine dernière. Mais en attendant de développer tous ces titres, l'ensemble de la rédaction française vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible de nos programmes. La police militaire tchèque a évacué lundi 7 militants pacifistes de Greenpeace qui occupaient depuis 6 semaines la côte géographique 718 dans le camp militaire de Brdy, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Prague. Cette côte 718, selon les cartes, est l'endroit choisi pour la base radar que les États-Unis souhaitent implanter en République tchèque dans le cadre du déploiement d'un système de défense antimissile en Europe. Même si elles ne traduisent que faiblement l'opposition de l'opinion publique tchèque, qui s'élève à près de 70% selon un très récent sondage, les mouvements de protestation des militants anti-radar se succèdent depuis quelque temps. La semaine dernière, deux militants de l'initiative Non au radar ont ainsi achevé une grève de la faim longue de 20 jours, sans toutefois être parvenus à obtenir ce qu'ils réclamaient et un fléchissement sur ces positions du gouvernement. Et lundi après-midi, ce sont donc 7 membres de l'association Greenpeace qui ont été contraints de quitter les lieux sur lesquels le radar américain devrait être installé, lieu qu'ils occupaient depuis la fin du mois d'avril en signe de protestation. Une intervention de l'armée dont le Premier ministre Mirek Topolánek a estimé qu'elle était tout à fait dans l'ordre des choses.
J'en suis informé. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'une zone militaire. Il est vrai que la violation de cet espace ne constitue qu'une infraction. Mais si cette infraction se répète, il me semble légitime que l'armée ait finalement décidé d'intervenir. J'espère simplement qu'elle ait intervenu avec tact sans menacer ce qui peut l'être dans ces cas-là, à savoir la santé et la propriété.
La police militaire est intervenue après que les écologistes n'aient pas donné suite à leur invitation répétée de quitter les lieux sur lesquels ils campaient sans autorisation. Leur évacuation s'est toutefois passée sans heurts et sans que les militants n'opposent de résistance. Il y a une semaine, ces derniers avaient proclamé sur la côte leur état, baptisé Peaceland, un état dont le principe de base était l'interdiction du port d'armes. La République tchèque et les États-Unis poursuivent actuellement leurs négociations et un accord devrait être prochainement signé entre les deux parties sur l'installation du radar à l'horizon 2011-2013. Le nouveau système de dotation à la culture de la mairie de Prague, basé sur le principe d'une subvention au billet vendu, qui défavorisait les organismes non commerciaux en faveur des institutions culturelles à but lucratif, a été supprimé. Le maire Pavel Bém a reculé devant l'ampleur des protestations d'une importante partie du monde culturel pragois. Il n'a cependant pas reculé face à la demande de révocation de son adjoint à la culture, Milan Richter, qui a catalysé toutes les colères des artistes et théâtres pragois ces dernières semaines. Jarka Gisibelova.
Démission, vous êtes un menteur, a entendu le conseiller pragois à la culture, Milan Richter, de la part des artistes en colère. Celui qui a introduit le nouveau système de subvention, attribué selon les critères quantitatifs en fonction du nombre de billets vendus. Système qui a mis en péril de nombreux théâtres de renom, comme Sémaphore ou Archa, où la nouvelle pièce de Václav Havel est actuellement jouée. La grogne des artistes a culminé à la fin du mois de mai, avec les journées de l'inquiétude et la pétition pour une Prague culturelle signée par 30 000 personnes. La déclaration communiquée lundi à l'agence de presse tchèque par le maire Pavel Bém et son adjoint à la culture Milan Richter se propose d'être une main tendue aux artistes en révolte. Ainsi, cette année, Prague donnera aux institutions culturelles des dotations équivalentes à celles attribuées en 2007, mais à condition qu'elles soient d'accord avec un audit. Une nouvelle étape de la transformation des théâtres subventionnés par le budget de la ville de Prague sera suspendue. Le concours pour le poste de directeur de 4 scènes pragoises, parmi lesquelles les théâtres Navino Hradec et Naza Bradley, n'aura pas lieu. Leurs directeurs actuels resteront en fonction jusqu'au 30 juin 2009. Finalement, le principe d'une subvention bien vendue qui aurait signifié la mort de plusieurs petits théâtres sera supprimé. Cette décision grâce à laquelle le maire espère calmer la situation ne plaît pas pour autant à certains théâtres qui avaient salué la refonte du système de subvention. Parmi eux, Petr Kratochvil, propriétaire d'un théâtre commercial à Prague, avec lequel tout a commencé. Il y a un an, Petr Kratochvil a porté plainte auprès de la Cour européenne de Strasbourg à cause du système de subvention accordé aux théâtres privés. Dans l'espoir de détourner le procès, la mairie a mis en place dans dans l'urgence un nouveau système de subvention qu'elle vient de supprimer après 7 mois d'existence. Petr Kratochvil n'exclut pas de reprendre le procès. Le critique de théâtre Vladimir Just considère pour autant le système de subvention aux billets vendus selon le principe « plus de sièges, plus d'argent » comme intenable.
Les grandes arènes devaient bénéficier des moyens publics de 10, 20 et 100 fois supérieurs pour la simple raison qu'elles ont plus de sièges, une logique qu'on ne trouverait nulle part ailleurs en Europe civilisée.
La mairie de Prague supprime non seulement le système de subvention aux billets vendus, mais aussi la commission qui décidait de l'attribution des subventions et qui sera remplacée par un corps de conseillers du maire. L'attribution des subventions pluriannuelles sera dorénavant conditionnée par un audit économique et personnel de l'institution culturelle.
La 9e foire des organisations à but non lucratif s'est tenue mardi à Prague. Les buts de ces associations et organismes qui doivent rester non lucratifs peuvent être très variés. Promotion et pratique de certaines activités, défense d'une catégorie de personnes, action sociale et humanitaire, etc. Certaines de ces organisations sont fortement subventionnées par l'État, qui reconnaît ainsi la valeur de leurs activités, comme nous l'explique Václav Richter.
Selon la coordinatrice de la foire, Lucia Galikova, il s'agit de la plus grande manifestation de son genre en Europe centrale et de l'une des plus grandes rencontres organisées par le secteur non lucratif dans toute l'Europe.
En premier lieu, c'est une présentation des organisations à but non lucratif de toute la République tchèque et qui ont pendant toute la journée la possibilité de rencontrer des représentants du large public, leur présenter leurs activités, leur expliquer comment faire pour devenir volontaire. Et en même temps, nous organisons un riche programme de discussions et de conférences auxquelles participent des personnalités du monde politique, du show business, du secteur non lucratif, etc.
Parmi les organismes représentés à la foire figure également l'initiative Stop au travail des enfants. Sa coordinatrice, Sylvie Taborska, signale que le rayon d'action de cette initiative dépasse largement les frontières de la République tchèque.
Nous nous occupons du travail des enfants dans le monde entier. Ça concerne tous les pays en voie de développement. Les enfants travaillent en Asie, en Chine et en Inde, mais aussi en Afrique, dans les pays les plus pauvres du monde. Les enfants travaillent à domicile, dans des champs, mais aussi bien sûr dans des usines. Ils fabriquent des vêtements que nous portons couramment.
Sylvie Taborska d'ajouter que presque toutes les sociétés de l'industrie textile, mais aussi par exemple les fabricants de café et de chocolat, sont plus ou moins impliqués dans l'exploitation du travail des enfants. Les consommateurs devraient donc s'informer davantage du processus de fabrication des produits qu'ils achètent.
C'est certainement une bonne voie. Demander des informations aux sociétés de production, s'informer dans les magasins, adresser des courriels aux commerçants. Nous aussi, nous informons le large public. Le 12 juin prochain, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants, nous chercherons à attirer l'attention du large public sur l'importance de ce thème.
Pour être plus près du consommateur, l'initiative Stop au travail des enfants organise ce jeudi une importante manifestation pour sensibiliser le public à ce problème directement au Palladium, grand centre commercial au cœur de Prague.
On termine avec un mot de culture. Jeudi 5 juin dernier s'est terminée la 18e édition du Festival des écrivains. L'âge de la majorité donc pour ce festival qui a accueilli cette année encore de grands noms de la littérature mondiale et tchèque comme l'américain Paul Auster, le britannique d'origine pakistanaise Tariq Ali ou les écrivains tchèques Ivan Klima et Petr Kral. Guillaume Basset, un des organisateurs du festival, nous a donné un petit bilan de cette édition 2008 au micro d'Anne-Claire Veluire.
Guillaume, vous travaillez pour l'organisation du Festival des écrivains à Prague. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cette édition 2008?
C'est assez facile. Nous avons cette année choisi le thème de 68, nous ne pouvions évidemment pas l'éviter. Nous avons eu donc plusieurs rencontres qui ont été toutes très intéressantes, avec des auteurs qui venaient vraiment de tous les coins du monde, et des lectures extrêmement intéressantes, avec un public qui a vraiment, vraiment apprécié les lectures et l'humanité, si je tiens à souligner ça, l'humanité de tous nos auteurs.
Vous avez justement choisi le thème 1968, c'était assez incontournable cette année, effectivement. Le sous-titre de l'édition, c'était le rire et l'oubli, la référence à Kundera est évidente. Est-ce que vous avez essayé de l'inviter ?
Oui, comme tout le monde, je pense, tout le monde essaye de l'inviter, et comme tout le monde, nous avons échoué, évidemment. Mais pour nos auteurs tchèques, nous avons quand même eu la chance d'avoir réuni le lundi, pour une discussion commune autour de la Tchécoslovaquie, Ivan Klima, Ludvík Grazulík, Antonín Lim.
Justement, sur le thème de 1968, il y avait des auteurs qui venaient un peu du monde entier. Le lien avec 1968 n'était pas évident pour tout le monde. Je pense par exemple avec Paul Auster. Comment ils se sont rattachés à ce thème-là ?
Il faut comprendre que notre festival a deux vocations. La vocation de conversation, c'est-à-dire on choisit un thème et on développe ce thème avec une idée, une explication, une réflexion philosophique, littéraire. Et la présentation au public tchèque d'auteurs qu'ils ne connaissent pas forcément ou qu'ils ont envie de rencontrer, d'écouter, lire. Paul Auster donc s'est rattaché très naturellement à ce mouvement-là, à la fois parce que évidemment c'est une star incontournable, mais aussi parce que 68 n'est pas un élément inexistant pour lui. Il a été actif à New York, à Columbia, l'Université de Columbia, il faisait partie des grands activistes de ce mouvement-là. Certes, nous avons plutôt Tariq Ali, par exemple, qui a été l'un des grands leaders de 68 de manière générale. Il avait quand même écrit « Street Fighting Man » lors de la démonstration face à l'ambassade américaine à Londres. Mais tous nos auteurs ont vécu humainement 68 en général. Donc ils sont rattachés de par leur vécu complètement, même si certains n'ont pas été tous de grands leaders activistes. Hein. On n'a pas que des Vatsulik et des Klima, évidemment. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement, ils avaient tous leur propre vécu à donner.
L'édition de l'année prochaine se présente comment ? Est-ce que vous avez déjà choisi le thème ?
Pour le thème est en élaboration actuellement. Nous avons déjà invité quelques auteurs. Nous avons effectivement réinvité Kundera, par exemple. Nous ne désespérons pas de l'avoir un jour, ce serait effectivement assez génial, y compris pour nous, mais de manière générale pour la République tchèque. Le thème, nous tournons actuellement autour du thème de l'art du conteur, quelque chose comme ça. C'est encore en finition. Pour les auteurs, nous aurons peut-être des auteurs francophones, et je peux vous le dire, je ne donnerai pas de nom, mais je peux vous dire déjà que nous aurons un ou deux prix Nobel de littérature.
C'était donc Guillaume Basset, un des organisateurs du Festival des écrivains à Prague. C'est sur cet entretien que se referment ces faits événements. Dans un instant, vous retrouverez Alexis Rosenzweig pour la visite d'une nouvelle vinothèque française, Passion Vin, qui vient d'ouvrir dans le quartier de Vinohrady à Prague. Le propriétaire des lieux, Franck Thomas, nous présente cette boutique spécialisée dans les vins français, mais pas seulement.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Franck Thomas, on est ici dans votre boutique. Est-ce qu'elle est... Elle a l'air neuve en tout cas. Depuis quand est-ce que vous êtes installé dans le quartier de Vinohrady ?
Bonjour, oui, donc effectivement, elle est toute neuve puisque nous sommes installés dans le quartier depuis le 1er mai. Nous avons ouvert officiellement le 1er mai.
Et alors, vous étiez déjà à Prague avant ou c'est votre première boutique et c'est une décision récente, l'installation à Prague ?
Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis à Prague, mais je n'ai pas toujours travaillé dans le vin. Et le fait de changer de vie, puisqu'avant j'étais directeur financier, c'est une décision relativement récente puisque ça date du mois de mars. Donc, on a trouvé l'opportunité de racheter une vinothèque qui existait déjà. On a sauté sur l'occasion, ma femme et moi. Donc, voilà.
Pourquoi cette décision, alors, de directeur financier à vendeur de vin ?
Ah, vous savez, quand vous commencez à vous ennuyer dans votre métier, il est toujours essentiel de savoir prendre une décision relativement tranchée, on va dire. Et le vin a toujours été mon hobby, ma passion. Et de plus, je suis un amateur, donc voilà, c'était le moment.
On vous a conseillé, on vous a dit que le vin était un bon créneau en ce moment en République tchèque, le vin français ?
Non, on y a été un peu à l'aventure, on va dire, mais disons que on a eu beaucoup d'échos de Tchèques qui nous disaient que c'était difficile de trouver du vin français à Prague. ce qui pour moi n'était pas vrai, puisque moi je cherchais tout le temps du vin français, donc on finit par en trouver. Mais avec ces échos-là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est un bon créneau. Donc voilà, on a commencé comme ça.
Vous y connaissiez en vin avant ?
Oui, toujours. Ça fait 10-15 ans que je vais inventer le mot amateurisé, que je cours après le vin et que je m'y intéresse. Et de plus, mes parents sont dans une région viticole qui est le Languedoc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu plus spécialisé dans le Languedoc d'ailleurs.
J'avais vu sur internet, il y a un Franck Thomas qui était meilleur sommelier d'Europe en 2000, c'est pas vous?
Ce n'est pas moi malheureusement, je le regrette, mais effectivement oui, je sais qu'il y a un Franck Thomas qui était meilleur sommelier, mais ce n'est pas moi.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la boutique? Est-ce qu'on peut faire un tour parmi toutes ces bonnes choses?
Alors, donc, comme je vous le disais, on est plutôt spécialisé dans les vins du Languedoc, notamment dans les coteaux du Languedoc. Nous en avons un très grand assortiment avec une cinquantaine de vins du Languedoc, dont certains sont largement au niveau des grands Bordeaux.
Vous allez les chercher vous-même, ces vins?
Alors je passe en fait par les vins du Languedoc, je passe par un caviste de Clermont-l'Hérault qui fait tous les vignerons que je connais déjà, qui sont, on peut dire, les meilleurs vignerons du Languedoc. Donc cela, voilà, on a vraiment... Pour moi, on a les meilleurs vins du Languedoc ici. Et de plus, ce sont des vins uniques en République tchèque, que, à quelques exceptions près, vous ne retrouverez pas ailleurs, à Prague.
Et alors, du rouge du Languedoc, et derrière nous, des vins tchèques aussi, je vois du Riesling notamment.
Absolument, donc on a essayé quand même de garder des vins de Moravie, puisqu'il y en a quand même des très bons. Donc on travaille essentiellement avec trois vignerons qui sont Proraska, Balone et Kovac. Donc des vins, notamment des vins blancs de très très grande qualité.
Des Sauvignons, on voit.
Des Sauvignons, des Riesling, des Veltlinske Zelené, des Muscat Moravski, quelques rouges qui ne sont quand même pas à la hauteur des vins, des rouges français, mais par contre de très très beaux blancs. De très très beaux blancs.
Alors à boire, mais aussi à manger?
À boire et aussi à manger. Donc on a des spécialités, quelques spécialités du Languedoc, notamment des confitures traditionnelles, des huiles d'olive de très très grande qualité et des pujolades qui sont des tapenades aromatisées, va-t-on dire. Et puis quelques miels aussi, des miels traditionnels, au thym ou au romarin. Et on a du Languedoc aussi, on a une exclusivité qui, même en France, n'est pas du tout connue, c'est la Carthagène. C'est un vin d'apéritif, en fait, donc légèrement sucré, pas trop alcoolisé, qui se boit très très froid en apéritif en été, c'est avec une tapenade notamment, c'est une pure merveille.
Alors, on est ici à quelques mètres d'un autre magasin français qui s'appelle presque pareil, qui s'appelle Passion Chocolat, le vôtre s'appelle Passion Vin. À Caen, Passion Reblochon dans le quartier aussi, ou Passion Fromage. Est-ce que, comme eux, comme les propriétaires de cette pâtisserie, vous avez eu du mal à vous installer administrativement parlant?
Non, enfin, je connais nos voisins, puisqu'on est voisins et on travaille un peu ensemble. On n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'eux. Je ne veux pas dire que tout a été facile, très loin de là, mais non, dans l'ensemble, ça s'est passé relativement bien et relativement vite. On n'a pas eu, Dieu merci, on n'a pas eu leurs problèmes. Donc, non, ça s'est bien passé.
Et l'emplacement, vous nous avez dit, vous avez choisi par hasard?
Oui, c'était une... En fait, avant, c'était aussi une vinothèque qui ne ressemblait pas du tout à ce que vous avez sous les yeux maintenant, mais oui, c'était une opportunité qu'on a trouvée... En deux jours, on a vu ça, on a vu l'annonce et on a sauté dessus. Mais c'était un pur hasard. Ouais.
Et alors, de ce que vous avez pu voir comme clientèle qui vient chez vous par hasard, qu'est-ce qui les intéresse, les clients tchèques qui passent, les consommateurs?
Ils regardent beaucoup d'abord. Ils sont assez curieux. Ils demandent. Après, pour l'achat, ils vont plutôt sur ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire plutôt les Bordeaux. Clairement, les Languedocs, c'est pas assez connu, donc moi j'ai un gros travail de vendeur à faire pour les Languedocs, parce que quand ils ne connaissent pas, ils sont pas trop aventuriers pour le vin, on va dire. Donc, d'eux-mêmes, ils se dirigent plutôt sur le Bordeaux, oui, c'est sûr. Donc on a un gros travail de promotion du Languedoc, c'est clair.
Pour convaincre les Tchèques de goûter ces nouveaux vins qu'ils ne connaissent pas forcément, est-ce que vous parlez tchèque ?
Je parle tchèque. En tout cas, je fais des efforts pour essayer de parler tchèque. Oui, ça fait déjà 5 ans que je suis là, donc et ma femme est tchèque, donc ça aide beaucoup. Donc oui, non, je parle tchèque, j'arrive à expliquer le vin en tchèque. Donc,
Et comment on dit le bouquet et la robe en tchèque alors ?
Alors bouquet, c'est bouquet, ça c'est pas très difficile. Et arôme, c'est pas un mot que j'utilise. On va dire, c'est plutôt j'utilise route.
Bon, qui veut dire le goût.
Le goût plutôt que l'arôme, ouais.
Vous en sortez plutôt bien, ça doit pas être facile.
C'est pas toujours facile, notamment puisqu'en français on a quand même le vocabulaire idéal pour décrire le vin, ce qui n'est pas le cas dans les autres langues. Donc il faut quand même savoir détourner le langage quelquefois. Mais on y arrive.
Merci beaucoup pour cette visite.
Je vous en prie, merci à vous.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence, ou sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz. À bientôt donc, ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.